Il faut que notre foi se réveille, qu'elle reconnaisse et adore en Christ la toute-puissance de celui qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Les œuvres de Dieu sont ce qui nous fait le mieux saisir ce que nous dit sa parole, les guérisons qui viennent de nouveau répondre à la prière de la foi, confirment par une glorieuse illustration la vérité de sa promesse. Apprenons à voir en Jésus ressuscité le divin guérisseur et recevons-le comme tel. Pour reconnaître en Jésus ma justice, ma force et ma sagesse, il faut que par la foi je saisisse qu'il est réellement tout cela pour moi, de même quand la Bible me dit que Jésus est le souverain guérisseur, il faut que je m'approprie cette vérité, lui disant « Oui, Seigneur, c'est toi qui es mon guérisseur ». Et pourquoi puis-je le tenir pour tel? C'est parce qu'il se donne à moi, que je suis une même plante avec lui, Romains 6. 5 inséparables munis à lui, c'est parce que son amour se plaît à combler de ses grâces ses bien-aimés, à se communiquer à tout cœur, qui veut le recevoir, que j'ai droit à sa puissance de guérison. Croyons-le, le trésor de bénédiction, que comporte le nom de l'Éternel, qui te guérit est prêt à se répandre sur tous ceux qui connaissent ce nom divin, et qui veulent se confier en lui. Ici c'est la foi qui est le véritable remède à tout, c'est là le seul traitement efficace, selon les lois du royaume de Dieu. Quand j'expose ma maladie au Seigneur, ce n'est pas sur ce que je vois, sur ce que je sens ou ce que je pense que je dois m'appuyer, mais sur ce qu'il a dit. Lors même que tout paraîtrait s'opposer à la guérison attendue, lors même qu'elle n'aurait pas lieu au moment même, ou de la manière que je m'étais figuré devoir l'obtenir, lors même que le mal semblerait s'aggraver, ma foi, fortifiée par l'attente même, doit s'attacher sans varier à cette parole sortie de la bouche de Dieu « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Le but constant de Dieu est de faire de nous de vrais croyants. La guérison, la santé n'ont guère de valeur, tant qu'elles ne servent pas à nous unir plus étroitement à Dieu et à le glorifier, aussi faut-il dès qu'il s'agit de guérison, que notre foi soit mise à l'épreuve. C'est celui qui compte sur la fidélité de son Dieu, celui qui écoute Jésus lui répéter « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, 40 qui aura la joie de recevoir de Dieu même la guérison de son corps, de la voir s'opérer d'une manière digne de Dieu, et conformément à ses promesses. Quand nous lisons ces mots « Je suis l'Éternel qui te guérit », ne craignons pas de répondre avec empressement « Oui, Seigneur, tu es pour moi l'Éternel qui guérit ». 11e jour. Obéissons et bonne santé. L'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode 15, 26, 7 Amara, que l'Éternel avait donné ses ordonnances à son peuple. Israël venait d'être soustrait au joug des Égyptiens, lorsque dans le désert les eaux de Mara mirent à l'épreuve sa foi. Après avoir rendu douces ces eaux amères, le Seigneur promit aux Israélites de ne les frapper d'aucune des maladies des Égyptiens, tant qu'ils voudraient lui obéir. Ils pouvaient être exposés à d'autres épreuves, à manquer parfois d'eau et de pain, à combattre des ennemis puissants, et à courir de grands périls, tout cela pouvait les atteindre malgré leur obéissance, mais la maladie ne devait pas les toucher. Dans un monde encore sous la puissance de Satan, ils pouvaient être en butte aux attaques venant du dehors, mais ils ne devaient point être atteints dans leur corps par la maladie, car Dieu les en avait affranchis. N'avait-il pas dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, je ne te frapperai d'aucune des maladies, dont les frappaient les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ailleurs encore vous servirez l'Éternel votre Dieu, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Exode 23, 25 Lisez encore dièse le 26. 14,16 Deutéronome 7, 15, 28, 15-28, 28, 58-61 Ceci appelle notre attention sur une vérité d'importance majeure, sur le rapport intime qui existe entre l'obéissance et la santé, entre la sanctification, qui est la santé de l'âme, et la guérison divine, qui assure la santé du corps, l'une et l'autre sont comprises dans le salut qui vient de Dieu. Remarquons ici que dans diverses langues, ces trois mots dérivent de la même racine et présentent la même idée fondamentale. Le salut est la rédemption que nous a acquise le Sauveur, la santé qui est le salut du corps, nous vient aussi du divin guérisseur, la sanctification, enfin nous rappelle que le véritable salut et la véritable santé consistent pour le croyant à être saint comme Dieu est saint. C'est donc en donnant la santé au corps et la sainteté à l'âme que Jésus est réellement le Sauveur de son peuple. Notre texte signale clairement le rapport qui existe entre la sainteté de la vie et la guérison du corps. Les expressions qui appuient là-dessus semblent s'y multiplier à dessein, si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie. Nous avons ici la clé de toute obéissance ou sainteté véritable. Souvent nous croyons connaître très bien la volonté de Dieu révélée dans sa parole, mais pourquoi cette connaissance ne produit-elle pas plus d'obéissance? C'est que pour obéir, il faut commencer par écouter. Si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu et que tu prêtes l'oreille, tant que cette volonté divine me vient par la voix d'un homme, ou par la lecture d'un livre, elle pourra n'avoir que peu de force en moi, tandis que si j'entre directement en communion avec Dieu, écoutant sa voix, son commandement se trouve accompagné de vie, d'une force vivante qui vient en faciliter l'accomplissement. Christ est la parole vivante, et le Saint-Esprit est sa voix. Écouter sa voix, c'est renoncer à toute volonté, toute sagesse propre, c'est fermer l'oreille à toute autre voix, pour n'attendre d'autre direction que celle de l'Esprit-Saint. Le racheté est semblable au serviteur ou à l'enfant qui ont besoin d'être dirigés. Il sait qu'il appartient entièrement à Dieu, que tout son être, esprit, âme et corps, doit glorifier Dieu. Il sent également que tout cela est au-dessus de ses forces et qu'il doit recevoir d'heure en heure la direction dont il a besoin. Il sait aussi que le commandement divin ne peut, s'il reste pour lui lettre morte, lui communiquer sagesse et force et que ce n'est qu'en prêtant l'oreille avec attention qu'il obtiendra la force voulue. Il écoute donc et il apprend ainsi à observer les lois de Dieu. C'est cette vie d'attention et d'action, de renoncement et de crucifixion qui constitue une vie sainte. Le Seigneur nous y amène en premier lieu par la maladie, qui nous fait comprendre ce qui nous manque, puis aussi par la guérison, qui appelle l'âme à cette vie d'attention continuelle à la voix de Dieu. La plupart des chrétiens ne voient dans la guérison divine qu'une grâce temporelle pour le corps, tandis que, promise par le Dieu Saint, elle a pour but de nous sanctifier. L'appel à la sanctification retentit chaque jour plus fort et plus clair dans l'Église. De plus en plus les croyants comprennent que Dieu les veut semblables à Christ, et le Seigneur recommence aussi à faire agir sa vertu de guérison, cherchant à nous montrer ainsi que de nos jours encore le Saint d'Israël est l'Éternel qui guérit que sa volonté est de maintenir son peuple, soit dans l'obéissance, soit dans la santé du corps. Que le malade qui attend du Seigneur sa guérison reçoive ceci avec joie. Ce n'est pas une obéissance légale qui lui est demandée, une obéissance qui dépend de ses propres forces. Non, c'est au contraire l'abandon du petit enfant que Dieu réclame de lui, l'attention à écouter et à se laisser conduire. Voilà ce que Dieu attend de lui, et la guérison du corps répondra à cette foi d'enfant, le Seigneur se révélera à lui comme le Sauveur puissant, qui guérit le corps et qui sanctifie l'âme. 12e jour. Job. Sa maladie et sa guérison. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job 2, 7. La mystérieuse histoire de Job soulève un instant pour nous le voile qui nous cache le monde invisible. Elle nous fait entrevoir que le ciel et l'enfer s'occupent des serviteurs de Dieu sur la terre. Nous voyons aussi là quelle tentation suscite la maladie et comment Satan s'en sert pour disputer à Dieu l'âme de l'homme et la perdre, tandis qu'au contraire Dieu cherche à la sanctifier par l'épreuve même. L'exemple de Job nous fait voir à la lumière de Dieu d'où provient la maladie, quel est le résultat qu'elle doit amener et comment il est possible d'en être délivré. D'où provient la maladie? Vient-elle de Dieu ou de Satan? On est généralement loin de s'accorder sur ce point. Les uns la tiennent pour être envoyés de Dieu, les autres veulent y voir l'œuvre du malin. Les uns et les autres sont dans l'erreur s'ils veulent soutenir leur opinion à l'exclusion de celle du parti opposé, tandis que tous ont raison s'ils admettent que cette question présente de face. Disons donc que la maladie vient de Satan, mais qu'elle ne peut avoir lieu qu'avec la permission de Dieu. D'un côté la puissance de Satan est celle d'un oppresseur qui n'a par lui-même aucun droit de fondre sur l'homme et de l'attaquer, et de l'autre côté les prétentions de Satan sur l'homme sont légitimes en ce que la justice de Dieu décrète que l'homme qui se livre à Satan par ses péchés se place par là même sous sa domination. Satan est le prince de l'empire des ténèbres et du péché, la maladie est la conséquence du péché. Voilà ce qui constitue les droits de Satan sur le corps de l'homme pécheur. Il est prince de ce monde, Dieu le reconnaît comme tel, jusqu'à ce qu'il soit légalement vaincu et détrôné. Il a par conséquent un pouvoir certain, sur tous ceux qui demeurent ici-bas, sous sa juridiction. C'est donc lui qui tourmente les hommes par la maladie, et qui cherche par là à les détourner de Dieu et à les perdre. Mais, hâtons-nous de le dire, la puissance de Satan est loin d'être toute puissante, elle ne peut rien sans l'autorisation de Dieu. Si Dieu lui permet de faire tout ce qu'il fait pour tenter les hommes, et même les croyants, c'est pour que l'épreuve porte en eux un fruit de sanctification. Il nous est dit aussi que Satan a l'empire de la mort, qu'il est à l'œuvre partout où règne la mort, et pourtant il ne peut rien décider quant à la mort des serviteurs de Dieu, sans la volonté expresse de Dieu. De même pour la maladie. À cause du péché, elle est l'œuvre de Satan, mais comme c'est à Dieu qu'appartient la haute direction du monde, elle peut aussi être envisagée comme l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui connaissent le livre de Job savent avec quelle clarté il expose tout ceci. Quel résultat doit amener la maladie? Ce résultat sera bon ou mauvais selon que Dieu ou Satan aura la victoire en nous. Sous l'influence de Satan, le malade s'enfonce toujours plus dans le péché. Il ne voit pas dans le péché la cause du châtiment et se préoccupe avant tout de lui-même et de ce qu'il souffre. Il ne demande qu'à être guéri, sans songer à vouloir l'affranchissement du péché. Au contraire, partout où c'est Dieu qui a la victoire, la maladie amène le malade à renoncer à lui-même et à s'abandonner à Dieu. C'est ce que nous montre l'histoire de Job. Ses amis l'accusent injustement d'avoir commis des péchés exceptionnellement graves et de s'être ainsi attiré toutes ces terribles souffrances. Il n'en était rien pourtant, puisque Dieu lui-même avait dit de lui qu'il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 2, 3. Mais pour se défendre, Job alla trop loin. Au lieu de s'humilier dans sa bassesse devant le Seigneur, et de reconnaître ses fautes cachées, il chercha à se justifier, fort de sa propre justice. Ce ne fut que lorsque le Seigneur lui apparut, qu'il en vint à dire « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Job 42, 6. Pour lui, la maladie devint un signe bénédiction, en l'amenant à connaître Dieu d'une manière toute nouvelle et à s'humilier devant lui plus que jamais. C'est là, pour nous aussi la bénédiction, que Dieu veut nous faire recevoir lorsqu'il permet à Satan de nous frapper par la maladie, et ce but est atteint par tous les malades qui s'abandonnent à lui sans réserve. Comment être délivré de la maladie? Un père ne prolonge le châtiment de son enfant que le temps nécessaire. De même, Dieu, qui a son but pour permettre la maladie, ne prolongera le châtiment qu'autant qu'il le faudra pour atteindre le but. Dès que Job l'eut compris, dès qu'il se fut condamné et repenti sur la poussière et la cendre en écoutant ce que Dieu lui avait révélé, le châtiment prit fin. Dieu lui-même le délivra de la main de Satan et le guérit de sa maladie. Puissent les malades de nos jours comprendre aussi que Dieu a un but déterminé pour permettre le châtiment et qu'aussitôt qu'il sera atteint, qu'aussitôt que le Saint-Esprit les aura amenés à confesser et à délaisser leurs péchés, à se consacrer entièrement au service de Dieu, le châtiment ne sera plus nécessaire, que le Seigneur alors pourra et voudra les en délivrer. Dieu se sert de Satan comme un gouvernement sage se sert du geôlier. Il ne laisse ses enfants en son pouvoir que le temps voulu, après quoi sa bonne volonté est de nous associer à l'affranchissement de celui qui a vaincu Satan, qui nous a soustrait à sa domination en portant à notre place, et nos péchés et nos maladies. 13e jour. La maladie est-elle un châtiment? C'est pour cela qu'il y a, parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, 30-32. En écrivant aux Corinthiens, saint Paul avait dû leur adresser des reproches sur la manière dont ils participaient à la Sainte Cène, s'attirant ainsi des châtiments de la part de Dieu. Après quoi il ajoute « C'est pour cela qu'il y a, parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades ». La maladie est donc ici un jugement de Dieu, un châtiment du péché. C'est bien un châtiment qu'il voit là, puisqu'il dit ensuite châtié par le Seigneur, et qu'il ajoute que c'est pour les empêcher de tomber encore plus bas dans le péché, pour les empêcher d'être condamnés avec le monde qu'ils sont ainsi frappés. Il les avertit que s'ils s'examinaient eux-mêmes, ils ne seraient ni jugés, ni châtiés par le Seigneur, que si par cet examen ils découvraient la cause de la maladie, et condamnaient leur péché, le Seigneur n'aurait plus besoin de sévir avec rigueur. N'est-il pas évident qu'ici la maladie est un jugement de Dieu, un châtiment du péché, et que nous pouvons l'éviter en nous examinant et nous condamnant nous-mêmes? Oui, la maladie est plus souvent qu'on ne le croit un jugement, un châtiment du péché. Ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Lamentation 3, 33, ce n'est pas sans cause qu'il nous prive de la santé. Peut-être sera-ce pour nous rendre attentifs à quelques péchés que nous pourrons préciser, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, Jean 5, 14, peut-être aussi parce que l'enfant de Dieu s'est engagé dans une voie d'orgueil et de mondanité, ou bien parce que la confiance en soi-même et le caprice se mêlent chez lui au service de Dieu. Il se peut encore que le châtiment ne sévisse pas sur quelque péché particulier, mais qu'il soit le résultat de la prépondérance du péché qui pèse sur toute l'humanité. Jean 9, 3, 1. Quoi qu'il en soit, toujours la maladie est une discipline qui doit nous rendre attentifs au péché et nous en détourner. Le malade devra donc commencer par se condamner lui-même en se plaçant devant son Père Céleste, avec un sincère désir de discerner tout ce qui a pu lui déplaire, tout ce qui a rendu le châtiment nécessaire. Il pourra compter alors sur la lumière du Saint-Esprit, qui lui fera voir clairement ses fautes. Qu'il soit prêt ensuite à y renoncer aussitôt et à se mettre à la disposition du Seigneur, pour le servir avec une parfaite obéissance, qu'il ne s'imagine pas toutefois pouvoir vaincre le péché par ses propres efforts. Non, impossible à lui de le faire, mais qu'avec toute sa force de volonté, il renonce au péché devant le Seigneur et que par la foi, il se croit reçu, accueilli de lui. Par là il se donnera, se consacrera à Dieu tout de nouveau, voulant ne faire que sa volonté sainte en toutes choses. L'Écriture nous assure que si nous nous examinons ainsi nous-mêmes, le Seigneur ne nous jugera plus. Il va sans dire qu'un père ne châtie son enfant qu'autant que c'est nécessaire pour son bien. Dieu veut nous affranchir du péché, aussitôt que nous le comprenons et que nous rompons avec le péché, la maladie peut cesser, elle a produit son effet. Il faut se mettre au clair sur ce qu'est la maladie et voir là une discipline de Dieu. On reconnaît vaguement qu'on a des péchés, mais on ne cherche guère à les préciser. Quand on le fait, on ne croit pas pouvoir y renoncer, et quand on se décide à les délaisser, on ne compte pas sur Dieu pour mettre fin au châtiment. Pourtant, quelle glorieuse assurance nous donne ici les paroles de saint Paul. Cher malade, comprends donc que ton Père Céleste a quelque chose à reprendre en toi. La maladie doit te le faire découvrir et le Saint-Esprit te guidera dans cette recherche. Renonce alors à ce qu'il te signalera. Tu ne voudrais pas qu'il reste le moindre nuage entre ton père et toi? Sa volonté est de te pardonner ton péché et de te guérir de ta maladie. En Jésus, nous avons pardon et guérison, ce sont là les deux faces de son œuvre de rédemption. Il t'appelle à vivre d'une vie de dépendance de lui, plus encore que tu ne l'as fait. Abandonne-toi donc à lui dans une entière obéissance et marche désormais comme un petit enfant en suivant ses pas. C'est avec joie que ton Père Céleste te délivrera du châtiment, qu'il se fera connaître à toi comme ton guérisseur, qu'il te rapprochera de lui par ce nouveau lien de son amour, qu'il te rendra obéissant et fidèle à le servir. S'il a dû en Père fidèle et sage te châtier, c'est comme un Père aussi qu'il veut ta guérison, qu'il veut te bénir et te garder désormais. Lorsqu'à propos de l'aveugle né, les disciples demandent au Seigneur qui a péché, et qu'il leur répond ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, il ne dit nullement qu'il n'y ait pas de rapport entre le péché et la maladie, mais il nous enseigne à ne pas accuser de péché toute personne malade. Il faut user ici d'une grande réserve et se garder de porter des jugements injustes sur les malades. 14e jour. La volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Si Dieu le veut. Jacques 4, 15, Matthieu 6, 10. Dans les jours de maladie, lorsque médecins et remèdes échouent, on recourt généralement aux paroles citées en tête de ce chapitre, et les voilà qui deviennent aussitôt une pierre d'achoppement sur le chemin de la guérison divine. Comment savoir, se dit-on, si la volonté de Dieu n'est pas que je continue à être malade, et tant que je n'en sais rien, comment croire à ma guérison, comment la demander avec foi? Ici la vérité et l'erreur se touchent de près. Il est vrai qu'il est impossible de prier avec foi lorsqu'on n'est pas sûr que ce qu'on demande soit selon les volontés de Dieu. Je puis bien, dit-on, prier avec ferveur, demander à Dieu de faire pour moi ce qui sera le mieux et croire qu'il me guérira si c'est possible. Tant qu'on prie ainsi, c'est prier avec soumission, ce n'est pas encore user de la prière de la foi. Celle-ci ne peut avoir lieu que lorsqu'on est certain de demander quelque chose selon les volontés de Dieu. Il s'agit donc de s'assurer ici de ce que Dieu veut, et c'est une erreur de croire que l'enfant de Dieu ne puisse pas savoir quelle est la volonté de Dieu quant à sa guérison.